les rêves des deux prisonniers, une étant le panetier et l'autre le chanson du roi. Et l'interprétation est la suivante, le panetier va être pendu ce jour-là, le jour de la fête du pharaon, et le panetier il va être rétabli dans son boulot. Ça, c'est le contexte pour pouvoir comprendre au bout de 2 ans. Finalement, si vous lisez le verset 23 du chapitre 40, la parole dit, le chef des chansons ne pensait plus à Joseph, il l'oublia. Et tout de suite après, il vient la phrase, au bout de 2 ans. 2 ans se sont écoulés. Et rappelez-vous, je veux que vous vous rappelez, que les chansons sont remis dans son boulot, quel jour? Selon l'histoire, le jour de l'anniversaire du pharaon. Et on se trouve maintenant 2 ans plus tard. Si vous lisez cette phrase en hébreu, l'hébreu dans le sens que 2 ans se sont écoulés jour par jour. Ce n'est pas 2 ans et 5 jours, ce n'est pas 1 an et 364 jours, c'est exactement 2 ans qui se sont écoulés. Alors, on se trouve de nouveau en quelle date?
La fête du pharaon,
2 ans plus tard. Alors, l'histoire nous dit que Pharaon a eu un songe. Non, en fait, il a eu 2 songes. 2 songes dans l'histoire. Et nous lirons plus tard les songes. Parce que j'ai vu qu'on les lit de la bouche de Pharaon. C'est ce que Pharaon a raconté à Daniel. Ok? Mais juste pour vous mettre en contexte, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, on va parler des 2 rêves du Pharaon, dont Pharaon rêve de 7 vaches laides et décharnées, et 7 vaches beaux et grasses. Et aussi, le 2e rêve, on va voir que c'est, on va parler de 7 épis beaux et de 7 épis mauvaises, brûlées avec les vents d'Orient. Ça, c'est le contexte. Et moi, j'aimerais mettre un petit à côté. Et moi, je veux vous dire, saviez-vous que nous rêvons à chaque jour de notre existence? Le saviez-vous, ça? On rêve tous les jours. Mais scientifiquement prouvé que vous avez rêvé hier. Mais peut-être vous ne vous rappelez pas de nous, parce que notre cerveau est paresseux de nature. C'est comme ça que le cerveau est. Et le cerveau, même si on rêve tous les jours, le cerveau oublie 95 à 80% de ce qu'on a rêvé durant la nuit. C'est pour ça qu'on ne se rappelle pas des rêves, mais on rêve scientifiquement tous les jours. Seulement les 2 à 5% de cette fois-ci, le cerveau tient compte. Et des fois, plus ou moins. Parce que quand on rêve aujourd'hui, il y a des gens qui prennent l'habitude de noter les rêves, n'est-ce pas? Aussitôt, ils se réveillent, ils notent les rêves. Parce que s'ils ne font pas ça, ils oublient le lendemain 80% du rêve. Et si ça passe 2-3 jours, ils oublient presque complètement les rêves. C'est comme ça le cerveau. Et je voulais juste que vous sachiez ça. On rêve tous les jours. Même si Pharaon a rêvé 2 fois, il a rêvé plusieurs fois, mais quand la parole nous dit que Pharaon a eu un songe, et pour nous faire savoir que ces songes-là, il y a une relevance pour l'histoire. Il est important pour l'histoire. Alors, il me semble que Pharaon a été impressionné par son premier rêve. Mais franchement, il n'a pas été assez impressionné. Pourquoi on dit qu'il n'a pas été assez impressionné par son premier rêve? Parce que le verset 5 de ce même chapitre nous dit que Pharaon a réussi à s'endormir. Alors, il n'était pas tellement perturbé par les rêves, parce que finalement, il était impressionné de voir 7 vaches maigres qui engloutissent les 7 autres vaches. Dans les rêves, on peut se permettre plusieurs choses. Moi-même, j'ai volé dans une de mes rêves. On peut se permettre de faire des choses un peu folles dans nos rêves, et c'est ce qui arrive. Il a réussi à s'endormir. Mais les choses se sont écorcées quand Pharaon a eu un 2e rêve. C'est là que les choses se sont écorcées parce qu'il a rêvé un 2e songe la même journée, la même nuit. Mais la parole nous dit que Pharaon s'est éveillé perturbé. La 2e fois, pas la première. La première, il était étonné, mais la 2e, il a été perturbé. Et j'ai vu que vous tenez compte que ça s'est passé le jour de son anniversaire. Il faut tenir compte de ça. Alors, j'imagine que Pharaon, ce jour-là, pendant la nuit, il pensait qu'il allait recevoir du monde, des dignitaires, des personnes très importantes, non seulement de l'Égypte, mais d'ailleurs dans des autres royaumes, il allait venir fêter la fête du Pharaon, n'est-ce pas? Il allait recevoir, il allait avoir des festins, l'allégresse, la musique. Mais il y a quelque chose qui est déjà évident. Pharaon est perturbé. Et ça, on ne peut pas changer. Il est déjà perturbé. Pourquoi il est perturbé? La parole nous dit que Pharaon, en voyant ça, il a fait appeler à tous les magiciens et à tous les sages du royaume. Et moi, j'ai vu que vous tenez compte de ces mots-là. Tous les magiciens et tous les sages. 100%. Et moi, j'ai vu que vous tenez compte de ça parce que plus tard dans l'histoire, ces mots, tous les sages et tous les magiciens, ils vont avoir une relevance. Le verset 8 de ce même chapitre nous dit que Pharaon raconta ses songes, mais personne ne pouvait pas l'expliquer à Pharaon. Alors, imaginez-vous l'ambiance. Je ne sais pas, moi ici, je vais appeler à votre imagination. Pour moi, j'imagine qu'il y en avait 100 sages et 100 magiciens.
Peut-être plus.
Exactement. Pour toi, peut-être plus. Mais peu importe le nombre de personnes dont vous allez imaginer, il y avait une grande cohorte de personnes très importantes, tous les sages et tous les magiciens qui étaient devant Pharaon. Alors, aucune de ces personnes-là, 100, 200, 400, 1000, ne pouvait pas donner réponse à son maître. Alors j'imagine que Pharaon, étant le Pharaon, il a commencé à s'impatienter, n'est-ce pas? Dis-moi mon songe. Non, dis-moi mon songe. Personne ne me donnait la réponse. Alors, étant le Pharaon, j'imagine qu'il a commencé à s'impatienter. À ce moment-là, en regardant que Pharaon était impatienté, qu'est-ce qu'a fait les chansons? Les chansons de Pharaon se rappelaient de Joseph, ce jeune hébreu qui, approximativement 2 ans auparavant, a interprété son songe. Et il a décidé avec une délicatesse calculée, parce que Pharaon était déjà un peu nerveux, il avait l'autorité de tuer, de ne pas tuer. 2 ans auparavant, il avait pendu le panetier, il avait coupé la tête. Alors, avec une délicatesse calculée, il décide de mentionner à Joseph comme dernier espoir pour Pharaon. Et il lui dit, écoute, je connais quelqu'un qui est en prison, que peut-être il va pouvoir te révéler ton rêve. On connaît l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, je ne vais pas l'expliquer, mais qu'est-ce que le Pharaon fait, comment il réagit? Il dit, allez-y, tout de suite, amenez-moi Joseph ici. Parce que ça, c'est le dernier espoir du Pharaon. Ça, c'est son dernier espoir. Alors, il fait appeler Joseph. Alors, Joseph, laisse-moi juste, ça, c'est dans une fois. Je m'excuse pour un instant. Ok. Plusieurs disent que les chansons a oublié Joseph volontairement à cause de ce qu'on vient de lire dans le chapitre 40. Il dit, et Joseph, les chansons oubliant Joseph. Et plusieurs disent que les chansons ont méprisé la demande de Joseph. Mais plusieurs croient aussi que les chansons l'ont oublié d'une façon honnête. Il était content après avoir retrouvé son boulot, retrouvé la liberté, que toutes ses obligations, ils l'ont fait oublier la demande de Joseph. Alors, il y a des arguments pour cette position. Et les arguments sont les suivants. Joseph n'était pas encore prêt pour avoir la grande journée qu'il devait avoir pour les plans de Dieu. À quoi aurait servi l'intercession de les chansons 2 ans auparavant? Ça n'existait pas un moment charnière comme celui-ci qui vient de passer avec les songes de Pharaon. Si il aurait intercédé pour Pharaon 2 ans auparavant, peut-être Pharaon aurait écouté ça, mais rien ne se serait passé. Alors, Dieu était encore en train de préparer les caractères ou de façonner les caractères de Joseph pour les grandes choses que Dieu avait préparées pour Joseph. Rappelez-vous, à travers les 2 rêves dont Joseph a eu à l'âge de 17 ans, Dieu certainement est sans équivoque à donner la promesse à Joseph d'être en proéminence ou prééminence, comment on dit?
Prééminence.
En prééminence devant sa famille. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à Joseph. Tu vas être en prééminence de toute ta famille, même si tu, maintenant, es encore le plus petit. Mais ce que Joseph ne savait pas encore, c'est que Dieu avait préparé quelque chose de plus grand pour lui. Il ne savait pas ça. Mais il savait qu'il allait être en prééminence, mais il ne savait pas ça. Dieu avait choisi, mes frères, Joseph, le premier fils de sa bien-aimée Rachel, pour qu'il aille des choses encore plus grandes de ce qu'il s'imaginait. Mais il ne le savait pas encore. C'est ça. Et moi j'aimerais qu'on aille lire le verset 14. Lisons ensemble le verset 14. Pharaon fit appeler Joseph et on le fait sortir en hâte de prison. Il se rassemble, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Mes frères, une petite application ici. Le jour de la promesse est arrivé. L'école transformateur de Dieu est finie pour cette époque de la vie de Joseph. L'école du caractère, de la patience, de la sobriété, de la souffrance, de l'abandon à Dieu est finie pour Joseph dans cette époque de la vie. Et c'est le verset 14 qui nous le dit. Ce jour, même si Joseph ne le sait pas, ça sera son dernier jour dans la prison. Il ne mettra plus jamais ses pieds en prison. Et il ne le savait pas peut-être. La parole nous dit que Pharaon fait sortir en hâte Joseph de prison. Ici, il nous dit que Joseph sera ça. Et moi, j'aimerais arrêter un instant ici. Ne pensez pas que Joseph, il a arrangé son moustache pour être plus aligné. Non. Les Égyptiens voyaient comme quelque chose de pas hygiénique avoir des poils sur la peau. Alors, Joseph étant un esclave, avant de se présenter devant Pharaon, il se rasa quoi? La barbe? Il se rasa tout le corps. Il a été mis à la façon égyptienne. Il se rasa tout le corps et ont donné des habits décents pour se présenter devant Pharaon. Mes frères, Dieu accomplit ses promesses à tout le monde, mais spécialement à ses enfants. Vous devez être clair de ça. Dieu accomplit ses promesses, et spécialement à ceux qui s'appellent ses enfants. Mais il y a une condition que vous devez prendre soin, vraiment. Dieu accomplit ses promesses, mais tout dans le temps de Dieu. Tout par la gloire de Dieu et tout par la force de Dieu. Ça, vous devez le comprendre très bien. Et vous savez, c'est quoi le problème de Joseph 2 ans auparavant? Il a voulu aider Dieu. Il a dit à les chansons, « Hey, écoute, je viens de te interpréter ton rêve. Peux-tu plaider à faveur de moi devant Pharaon ?» Il a voulu aider Dieu. Rappelez-vous de Sarah, comment elle a voulu aider Dieu. Et les choses se sont... On connaît les problèmes qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. Alors, Joseph n'était pas prêt à ce moment-là. C'est pour ça que Dieu ne l'a pas... Il a laissé continuer 2 ans de plus dans l'école de Dieu. Mais la journée est arrivée. Et ici, il y a une application pour nous autres. Dieu va accomplir ses promesses, et spécialement à vous et à moi qui on s'appelle ses enfants. Je vais vous donner quelques promesses pour que vous soyez tranquilles. 1 Jean 5:11, il y a plusieurs promesses. Il y a beaucoup de promesses. Mais je vais juste nommer un couple comme à titre d'exemple. 1 Jean 5:11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et ses vies est dans son Fils. Ça, c'est une promesse que nous devons chérir dans notre cœur. Philippiens 4:19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, mais avec gloire en Jésus-Christ. Vous savez pourquoi on dit que Dieu accomplit ses promesses? Car Nombre 23:19 dit comme suit. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Ça, c'est notre Dieu. Dieu n'a pas encore fini, ni avec vous, ni avec moi, soyez certains. Dieu n'a pas fini avec vous, ni avec moi. Dieu va accomplir ses promesses envers ses enfants. Dieu va les accomplir. mais soyez certain que Dieu veut encore plus de toi et Dieu veut encore plus de moi. Ça, c'est certain aussi. Nous devons nous laisser guider par sa volonté écrite dans sa parole. Nous devons nous laisser guider par son Saint-Esprit. Accompagnez-moi à voir comment cet homme-là a été transformé. Et c'est peut-être ça, c'est le dernier examen avant d'arriver à la journée, à cette journée-là dont il est libéré. Versets 15 et 16, lisons ensemble. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Dans des autres versions, il dit, c'est Dieu qui donnera une réponse de paix à Pharaon. Mais ce qui est le plus important ici, ça c'est la phrase dont Joseph répond à Pharaon. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et c'est là qu'on voit que vraiment, Joseph, son corps était déjà prêt. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Pharaon a donné la chance, peut-être sans le savoir, à Joseph de se vanter de son don d'interprétation. Qu'est-ce qu'aurait une autre personne fait à ce moment-là quand Pharaon dit, je sais que tu interprètes les songes après l'avoir. Il dit, mais oui, c'est moi, j'ai un don. Il aurait pu prendre ça à son profit. Il aurait pu prendre avantage de ça. Mais qu'est-ce que Joseph a dit? C'est pas moi, c'est Dieu. Et là, on voit un corps vraiment changé de Joseph. Joseph a dit quelque chose de pareil ou semblable dans le chapitre 40, 12 ans auparavant, verset 8, dans sa deuxième partie. La parole dit, n'est-ce pas à Dieu qui appartient des explications? Joseph a dit ça au panettier à la chanson. Deux personnes qui étaient semblables à lui. Il était des prisonniers comme lui. Mais cette fois-ci, c'est plus particulier parce que Joseph, il fait ça devant les rois d'Égypte, les pharaons lui-même. Alors, nous ne devons pas enlever la gloire à Dieu. Ça, c'est, vous devez être certain. On vient de parler, nous ne devons jamais enlever la gloire à Dieu dans aucune circonstance. La parole nous dit en 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangez, soit que vous bouviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ça, vous devez le savoir. Joseph n'a pas voulu enlever la gloire de Dieu. Il a donné la gloire à Dieu. Il a dit, c'est pas moi qui vais interpréter ton songe. C'est Dieu lui-même. Et maintenant, on arrive à l'histoire. L'histoire dont je vous ai promis qu'on va partager. On va lire le chapitre 41 du verset 17 en avant. On va voir la façon dont Pharaon a raconté son songe à Joseph. Lisons ensemble, verset 17. Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. » Et voici cette vache grasse de chair et belle d'apparence montait hors du fleuve et se mit à paître dans la prairie. Cette autre vache montait derrière elle, maigre, fort laide d'apparence et décharnée. Je n'en ai point vu aussi laide dans tous les pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore un songe, cet épi plein et beau, qui montèrent sur une même tige, et cet épi vide, maigre, brûlé par le vent d'Orient, poussait après eux. Cet épi maigre engloutit les sept beaux épis, et je dis aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Et voilà l'explication que Joseph donne. Joseph dit à Pharaon, ce qui a songé le Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années, et les sept épis beaux sont sept années. C'est une seule songe. Les sept vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont sept années, et les sept épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle. Et on lui oubliera cette abondance au pays d'Égypte et la famine consommera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'attendra à l'exécuter. Ça, c'est la version biblique, parce qu'il y a une première version que Moïse raconte, mais la plus exacte, c'est celle qui vient de la bouche de Pharaon et celle que Joseph a répondu. Ça, c'est. J'ai vu qu'on remarque dans cette portion ici dont Pharaon raconte son songe et Joseph l'interprète. Verset 31, quelque chose de très intéressant. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. On le lit rapidement, mais quand on le lit en chair et en os, c'est différent. L'histoire nous dit que on va étudier dans ces mois-ci encore plusieurs chapitres dont on parle de la vie de Joseph. Et on va se rendre compte que déjà à la 12e année de la famine, des années de 7 vaches laides et maigres, les gens ont commencé ils ont déjà complètement oublié les 7 années d'abondance, dont plusieurs experts disent que la terre a produit 5 fois sa capacité. Imaginez-vous, quand on a beaucoup d'abondance, on ne se rend pas compte. Et des fois, on dépense et on dépense. Mais la parole nous dit qu'on doit garder un peu pour les années de cette vache laide. Un an s'est passé et ils ont complètement oublié l'abondance à cause de la famine extrême. Jusqu'ici, Joseph a fait ce que le pharaon lui avait demandé de faire. Mais Joseph a donné un conseil à Pharaon. Mais moi, je ne veux pas que vous perdiez de vue que c'est Dieu qui voulait communiquer ça à Pharaon. Dieu a utilisé Joseph pour communiquer à Pharaon ce qu'il voulait lui dire à Pharaon. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Lisez verset 28. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. C'est l'intention de Dieu de faire connaître ça à Pharaon par l'entremise de Joseph, certainement. Et Joseph, certainement, donne un conseil à Pharaon. Mais ces conseils-là, n'oublie pas, c'est ce que je viens de dire. Si on lit, je vais vous amener à lire le verset 38. Le verset 38 nous dit quelque chose de très intéressant qu'on va voir aujourd'hui. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant du Saint-Esprit ?» Je vais arrêter juste un instant parce que je vais lire la promesse. J'ai oublié de lire la promesse. La promesse, on la trouve du verset... Non, les conseils. 33 à 38. Lisons 33 à 38, je m'excuse. 33 à 38, on va lire les conseils que Joseph donne à Pharaon. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le met à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever une cinquième de récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, et qu'il ressemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, et qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en aille la garde. Ces provisions seront des réserves pour les pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans les pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consommé par la famine. Et dans le verset 38 qu'on vient de lire, on voit, mes frères, la première manifestation sur un être humain du Saint-Esprit dans toute la Bible. Et celui qui a eu cette première manifestation du Saint-Esprit en chair et en os, c'est Joseph. Joseph était un homme qui était rempli du Saint-Esprit à ce moment-là. Joseph dégageait le Saint-Esprit devant tout le monde. Et on verra ça dans quelques secondes. Mais je veux que nous tenions compte de quelque chose. Je vais vous amener au chapitre 39, verset 3. Je veux qu'on voit quelques caractéristiques dont Dieu avait donné à Joseph. Dieu l'accompagnait en tout temps. Genèse chapitre 39, verset 3. L'Éternel était avec Joseph, l'Éternel faisait prospérer entre les mains de Joseph tout ce qu'il entreprenait. Et ça, on parle la première année dont Joseph était à la maison de Potiphar. Il a pris toute la maison de Potiphar et il a géré tellement bien la maison de Potiphar que Potiphar ne s'en chargeait de rien. Alors, Joseph n'était pas un néophyte dans les affaires. Il savait comment gérer. Et c'est ce que Dieu dit de Joseph. Verset 21 du même chapitre 39. Il était déjà en prison à ce moment-là. L'Éternel fut avec Joseph et l'Éternel étendit sur lui sa bonté. Joseph avait déjà quelque chose de différent. Et c'est à cause de Dieu. Verset 23. L'Éternel était avec Joseph et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Vous voyez, Dieu utilise Joseph pour donner un conseil à Pharaon. C'est Dieu qui a donné les conseils à Pharaon. C'est Dieu qui voulait donner ses conseils à Pharaon. C'est Dieu qui a fait rêver Pharaon. C'est Dieu qui a donné ses grâces à Daniel pour qu'il aille faire la mission dont Joseph devait faire. On va lire la promotion de Joseph. Joseph a été promu, versets 37 à 44. La parole nous dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, tu trouverais en nous un homme comme celui-ci, ayant à lui l'esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et il le mit dans la main de Joseph. Il le revêtit des habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et il le fait monter sur le char qui suivait le sien et il le cria devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Ça, c'est la promotion de Joseph. Mes frères, quand nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, les gens le remarquent. Et je veux que vous tenez compte de ça. Quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, les gens le remarquent. Je ne sais pas si vous connaissez des gens remplis de l'Esprit. Moi, je connais plusieurs ici dans cette église et ailleurs quand j'étais dans une autre église. Je connais des mondes qui te saluent avec amour, qui te donnent des conseils corrects, qui te parlent avec fermeté, qui te sentent son amour. Et ça, c'est des gens qui se laissent guider par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, mais moi, certainement, j'en connais. Et tout le monde reconnaissait en Joseph quelque chose de spécial. Joseph n'a pas eu peur de dire la vérité, même devant le roi d'Égypte. Dieu lui a mandaté de se présenter devant le roi d'Égypte et il a fait. Il a fait. Il a accompli avec ses mandats. Et ça doit nous interpeller à notre corps. Vous savez quoi, pour nous tous les chrétiens, vous savez qu'est-ce que Dieu nous a mandaté de faire? Dieu nous a mandaté de la grande commission. Mais un grand nombre d'entre nous, moi inclus, nous avons transformé malheureusement la grande commission dans la grande mission. Et c'est malheureux pour nous les chrétiens d'arriver à ces conclusions. Beaucoup d'entre nous, nous avons peur de prêcher l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'on l'a intégré dans nos vies. Et maintenant, ça s'appelle la grande mission. Beaucoup de personnes l'appellent la grande mission. Parce que les chrétiens ne font pas ce qu'ils doivent faire. Mais prenons par exemple Joseph, dont le roi d'Égypte l'a dit qu'il était le plus sage de tout le royaume. Si vous ne voulez pas prendre comme exemple Joseph, prenez Daniel, dont Nabucodonosor, le roi de Babylone, l'a trouvé 10 fois plus sage que toutes les sages de la Babylonie. Prenons ces sortes de personnes comme exemple. Prenons Misaël, Anani et Azari. Peut-être vous les connaissez plus par les noms babyloniens. Et Mesach, Sadrach et Abednego. Ça, c'est de bons exemples. N'ayons pas peur à prêcher l'Évangile. Et prêchons certainement l'Évangile. Parce que quand on prêche l'Évangile, la parole nous dit, car ils connaîtront la vérité et la vérité sera libre. C'est ce qu'on doit projeter à tous ceux qui veulent entendre l'Évangile. On va lire le verset 37. Qu'est-ce qu'il dit le verset 37? Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. J'aimerais vous dire, mes frères, que la crème de la crème était devant le Pharaon. On se trouve dans la même journée, la crème de la crème était devant le Pharaon, n'est-ce pas? Et selon le verset 37, ces paroles plus à tous les serviteurs de Pharaon. Et c'est là que je voulais en venir quand je vous ai mentionné tous les sages et tous les magiciens. Ces paroles-là plurent à tous les sages et à tous les magiciens. C'est ce que je comprends. Tout le monde qui était là, il était content avec les conseils de Joseph. Alors, à ce même instant, quand il dit, est-ce que vous êtes correct avec les conseils de Joseph? Tout le monde a dit oui à l'unisson. Et à ce même moment, Pharaon a donné la promotion à Joseph. Tous les serviteurs, donne-moi une seconde, Charles Olivier. Tous les serviteurs devaient accepter la décision du roi, n'est-ce pas? Non seulement car il était le roi et il ordonnait, mais aussi parce qu'il avait accepté que les conseils étaient bons. Alors si quelqu'un voulait faire une campagne politique à ce moment-là, quand Joseph a dit les stratégies, à ce moment-là, la personne a dû rester avec la bouche fermée. Parce qu'ils ont accepté les messages qui a plu à tous les serviteurs. Et puis, à ce moment-là, Pharaon a donné la promotion à Joseph. Charles Olivier, rapidement.
La question, oui, ils ont accepté Joseph, mais est-ce qu'ils ont cru au Dieu de Joseph?
C'est ça que je me demande. On va voir ça dans quelques minutes. Verset 39, s'il vous plaît. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Mes frères, on est en train de parler de Joseph et on m'a mentionné Joseph et Joseph et Joseph. Mais Joseph n'a pas eu besoin de faire une grande prière avec 15 versets bibliques avant d'avoir été promu par les pharaons. Il n'a pas eu besoin de faire un sacrifice dont Dieu allait l'approuver en mettant du feu. Il n'a pas chanté une somme pour que les pharaons puissent voir la manifestation du Saint-Esprit. Vous savez quoi? Les pharaons ont reconnu dans la vie de Joseph, dans son humilité, dans son courage, dans son caractère, et dans sa sagesse, dans son conseil, la manifestation du Saint-Esprit. Il l'a reconnu, c'est pour ça qu'il a dit, « J'ai pas vu un homme avec l'Esprit de Dieu, et je le vois en Joseph. » Mais l'Esprit Saint, mes frères, peut se manifester dans tout endroit et dans tous les jours. Dans la vie de tous les jours, le Saint-Esprit peut se manifester dans nos vies. Il nous accompagne. La parole dit qu'il demeure dans nous. Alors, le Saint-Esprit peut se manifester dans la vie de tous les jours et en n'importe quelle circonstance. Ici, dans cette circonstance, c'était une circonstance très particulière. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit va se manifester, si vous vous laissez vous guider, pour le Saint-Esprit va se manifester dans votre vie, au travail, à l'église, certainement oui, mais peu importe où nous sommes, vous devez être conscient de ça. Mes frères, devant Pharaon maintenant, devant Pharaon, debout, est le premier ministre de l'Égypte. C'est Pharaon qui donne la promotion. Mais vous voyez, lui, il désempeigne non seulement le rôle de premier ministre, il devient tout de suite aussi le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Économie. Vous voyez, quelle responsabilité pour un jeune homme. Et je sais penser que Dieu allait le faire devenir le leader de sa famille seulement. Sa compréhension arrivait jusqu'à là, à cause de deux rêves à 17 ans. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait préparé quelque chose de plus grand pour lui. Et Dieu ne nous donne pas ce qu'on a besoin. Il nous donne plus. Toujours, c'est comme ça. Dieu accomplit ses promesses, spécialement pour ses enfants, mes frères. Soyez conscients de ça. Lisons versets 40 et 41 rapidement. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Je t'établis sur ma maison. » Joseph avait été nommé le premier ministre. Par-dessus lui, qui? Une seule personne. Pharaon lui-même. Par-dessus lui, tout le reste. Ça amène à une question. Comment une telle chose est-il arrivée? Comment une telle chose est-il arrivée? Ça fait quelques heures, il était en prison. Maintenant, il est le premier ministre de l'Égypte. Comment une telle chose est-il arrivée? Tout par la grâce de Dieu. Tout par la grâce de Dieu. Tout par la promesse de Dieu. Mais non seulement ça, c'est aussi par la fidélité de Joseph. Par la fidélité à ses principes, par son honnêteté, durant son passage devant la maison de Potiphar. Il n'a rien fait de mauvais. Par sa honnêteté pendant le temps de la prison. Mon frère, l'hébreu, le rêveur, comme ses frères l'appelaient, ici il vient le rêveur, l'hébreu, le rêveur, l'esclave, le prisonnier, maintenant est devenu le vizir de l'Égypte. Quelle bénédiction! Dans les récits bibliques, il semble que tout est arrivé du jour au lendemain. Mais dans la réalité, vous savez combien d'années ça a pris à Dieu de façonner les caractères de Joseph? 13 ans. 13 ans a duré son voyage. 13 ans, Joseph a été dans l'école de Dieu. 1 an dans la maison de Potiphar. 12 ans en prison. Cette préparation a duré 13 ans. Mais si vous êtes en train de passer par une épreuve, ça va peut-être durer moins, ou ça va peut-être durer plus pour vous. Mais soyez certains, Dieu accomplit ses promesses. Dieu accomplit ses promesses. On ne doit pas se décourager quand on est dans les épreuves. Parce que la parole nous dit que sachant que l'épreuve de votre foi produit patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaite et accomplie, sans faillir en rien. Alors regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé dans l'école de Dieu. N'ayez pas peur, soyez patient dans l'épreuve. Lisons quelques signes de la promotion de Joseph. Verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'un habit de fin lin et on lui mit un collier d'or au cou. Il fit monter sur les chars qui suivaient les siens. Ils l'ont crié devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Alors, Pharaon, on va voir quelques signes d'autorité. Pharaon enlève sa vague et il donne sa vague à Joseph. Vous savez c'est quoi ça? Vous savez qu'est-ce que Pharaon a fait avec sa vague?
C'était le sceau.
Il signait tous les décrets, toutes les lois. Il les signait avec sa vague. Mais Pharaon fait ça. Tiens, Joseph. Ça, c'est une expression d'autorité que Pharaon donne à Joseph. Une fois, mes frères, une fois Joseph était menotté. Aujourd'hui, il a la vague de Pharaon. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Dieu fait ça avec ses enfants. Joseph, avec cette vague, avait le pouvoir de faire et de défaire. Il avait tout le pouvoir à ce moment-là, de faire et de défaire. Mais pourquoi il a utilisé, comment il a utilisé cette autorité? Il n'est pas devenu un dictateur. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait avec cette autorité? Il a sauvé beaucoup de monde. Il a sauvé beaucoup des Égyptiens. Et il a sauvé toute la famille de Joseph. Et il a sauvé beaucoup des étrangers. C'est pour ça que mon frère, au début du mois prochain, il va faire un parallèle entre Joseph et Jésus-Christ. Ne perdez pas de vue ces jours-là. Il va nous expliquer mieux que moi ça. Mais c'est un parallèle que mon frère Pierre Gagnon va faire ça. La parole nous dit qu'il a été revêtu de lin fin. Une fois, mes frères, avec l'essayon du prisonnier, aujourd'hui, il a l'événement d'un prince. Il a l'événement du leader de la nation la plus puissante de ce monde à l'époque. C'est Dieu. Pharaon lui mit un collier d'or au cou. Une fois cet homme, Joseph, enchaîné comme un esclave. Aujourd'hui, orné d'un collier d'or qui signifie, qui représente l'autorité du Pharaon. Ça, c'est Dieu, mes frères. Il les fit monter sur les chairs qui le suivaient aussi. Une fois, mes frères, une fois pieds nus, comme un esclave, marché. Mais aujourd'hui, il les fait rouler sur un char ou une voiture de luxe. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu qui fait avec ses enfants qui se laissent guider par le Saint-Esprit. Dieu donne grâce à tous ceux qui l'aiment. Si vous voulez lire ça, Romains 8, 28, vous allez pouvoir ça facilement. Plusieurs veulent éviter le processus Plusieurs ont dû éviter la discipline, les épreuves. Ils cherchent seulement la bénédiction. Et ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vie chrétienne. La parole nous dit que vous auriez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Je vais couler le monde, dit Jésus, n'est-ce pas? Jean chapitre 16. C'est comme ça que nous travaillons. L'Église, Emmanuel, fêtera ses 40 ans cette année. Mais pour arriver jusqu'à là, l'Église a dû passer par le processus. 40 ans de processus. On n'est pas là comme ça. L'Église a dû passer un processus pour arriver. Il a dû passer par l'école de Dieu. Et soyez attentifs, car Dieu n'a pas encore fini avec Emmanuel. Dieu n'a pas encore fini avec Emmanuel. Emmanuel a encore une histoire qui va continuer à se développer. Soyez attentifs. Dieu a beaucoup à donner encore avec l'Église Emmanuel dans ses communautés. Et vous faites partie de ça. Ce n'est pas les gens qui sont déjà passés par ici. C'est vous et moi que nous allons, à travers l'aide de Dieu, façonner ce que ça va venir pour les années à venir. C'est une responsabilité pour vous et pour moi. Nous prenons de nouveau le sujet de l'Église fille. J'espère que ça va arriver à quelque chose. Êtes-vous prête à y participer dans ces processus au vu tout seulement les bénédictions, les statu quo, le confort de quatre murs ici? Quel privilège de servir dans le ministère du Seigneur. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Verset 44. Ça ne me reste pas beaucoup de temps, mais je vais épuiser tout mon temps aujourd'hui. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Mes frères, une fois condamné à recevoir l'ordre, vous voyez, qu'est-ce qu'un esclave fait? Un esclave fait ce qu'ils lui disent de faire. Il reçoit des ordres. Et il était condamné à recevoir des ordres. Aujourd'hui, c'est lui qui donne les ordres. C'est ça. C'est Dieu qui fait ça avec ses enfants vilains. 13 ans d'école pour que Joseph récupère sa liberté. Ça a pris 13 ans avant de récupérer sa liberté. Et Dieu lui a donné la liberté. Mais Dieu te donne encore plus. Il n'a seulement pas donné la liberté, il a redonné sa dignité. Après avoir interprété les sons du Pharaon, Pharaon lui aurait pu dire, écoute, merci beaucoup pour ton conseil, pour ton interprétation. Voici ta liberté. Pourquoi Joseph voulait être libre? Vous savez pourquoi? Il voulait juste aller voir son père de retour. Peut-être aller voir son petit-fils, son petit frère Benjamin. Qui sait ses autres frères? Mais en tout cas, il voulait sa liberté pour retourner à son pays. Et ça, c'était son seul but. Mais Dieu l'avait préparé quelque chose d'autre. Dieu savait plus. Dieu regardait la big picture que lui, il regardait pas. Mais il a obtenu non seulement sa liberté à ce jour-là, il a retrouvé sa dignité. Vous savez, la dignité de Joseph était par terre. Il n'a pas menti à ses frères quand il a interprété les deux songes. Il n'a pas menti à ses parents. Peu importe la façon dont il a dit, il n'a pas menti. Il a dit ce qu'il a rêvé. Il n'a pas voulu violer la femme de Potiphar, comme elle a voulu faire croire. Il n'a pas voulu être dans la citerne. Vous voyez, sa dignité était par terre. Mais Dieu donne plus de ce qu'on lui demande. On a un Dieu miséricordieux. Et vous savez ça? Tout ce que je viens de vous raconter, c'est ton histoire et la mienne. Sans que tu ne saches, ça c'est ton histoire. Tu étais un esclave du péché. Vous voyez, ta dignité a été perdue depuis qu'Adam a fait le péché original. On était vraiment à terre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a donné Christ qui a verser son sang sur les bois. Pourquoi? Pour te redonner la liberté du péché et pour te redonner la dignité dont tu avais perdu. Ça, c'est Dieu qui fait. Ça, c'est notre histoire. On ne se rend pas compte, mais ça, c'est notre histoire. La parole nous dit que Nous sommes une nation sainte, une sacerdoce royale, un peuple acquis. Et la promesse est là. Il n'y a rien de mauvais avec la promesse. Mais la question est-ce que vous les croyez? Ça, c'est la question. Comme enfant de Dieu, est-ce que vous croyez à ces promesses? Ça, c'est le problème que plusieurs ont. Verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Paénach. Est-ce que je prononce bien? Tsaphnath-Paénach. C'est difficile de... Mais moi je... Et il lui donna une femme à Asnath, une fille de Potiphéra, près d'Éon, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Rapidement, Tsaphnath-Paénach. Pharaon fait quelque chose de stratégique. Son premier ministre ne pouvait pas s'appeler Joseph, non hébreu. Et il a dit, non, ok, je vais te donner la promotion, mais on va te changer le nom, on va te donner un nom égyptien. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Tsaphnath-Paénach? Soutien de la vie. Il vit. C'est qui nourrit le pays. Vous voyez, ils ont donné un nom qui avait une signification. Il a donné aussi une femme, Asnath, la fille de Potiphéra, prêtre de On. Vous savez, dans le village de On, il y avait un temple, et Potiphéra était le prêtre de ce temple-là. Et ce temple-là adorait qui? Ra, le dieu soleil. Alors, Potiphéra était le prêtre qui faisait des offrandes à Ra. Et vous allez voir dans l'histoire de l'Exode, dans les 10 plaies d'Égypte, que Dieu va confronter ces dieux avec un petit dé, avec la plaie des ténèbres. C'est là qu'il va les mettre à terre, à ces petits dieux, avec des minuscules Ra. Mais ça, c'est quelque chose d'autre. Alors, je veux que vous voyez. Une fois, c'est Joseph dans son citerne, toute seule, maintenant avec une famille en Égypte. Dieu lui a permis d'avoir une famille. Et c'est ça que Dieu nous donne. Dieu nous donne tout, mon frère. La famille que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. On va lire rapidement, parce que 46, 48 et 49. Et avec ça, je vais commencer à finir. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon pour parcourir toute l'Égypte. On va s'arrêter là, parce que ça, c'est l'idée principale. Joseph avait 30 ans. Il était jeune. Et il a été donné une famille. Premièrement, une femme, et on verra dans quelques secondes, il a eu 12 enfants. Il a eu la bénédiction d'avoir une famille après avoir été toute seule dans son citerne. Mais toute bénédiction, mes frères, amène une responsabilité. Et c'est ça que vous devez savoir. Si Dieu vous a béni, ou vous bénit maintenant, il y a une responsabilité derrière cette bénédiction. Joseph ne s'est pas assis sur ses lauriers. Il y a un proverbe populaire qui dit ne t'assois pas sur tes lauriers, je pense. Ok, il ne s'est pas assis sur ses lauriers. Il s'est mis tout de suite à travailler. Il n'a pas dit, ok, je vais prendre 30 jours de congé, maintenant que je suis le premier ministre, je m'en vais en vacances, je vais faire une grande fête pour amener toute ma famille, tous mes amis, pour qu'ils voient que je suis le premier ministre de l'Égypte. Il vient de se marier, il aurait pu faire ça, mais il n'a pas fait ça. Il s'est mis tout de suite au boulot. La parole nous dit que la responsabilité, il l'a pris sérieusement. Il est allé parcourir toute l'Égypte, j'imagine qu'il est allé à Memphis, à Thébas, à Alexandrie, entre autres, parce que ça, c'est des villes qui existent aujourd'hui encore. La parole et les experts nous disent qu'à l'époque, il y en avait 1,5 million d'Égyptiens, de 1,5 million à 2 millions d'Égyptiens à l'époque. Beaucoup de monde a sauvé, n'est-ce pas? S'ils te donnent la responsabilité de sauver 1,5 million de personnes, écoute, je n'irai pas faire une fête avant d'accomplir mes responsabilités. Beaucoup de monde a sauvé. Joseph, encore une fois, fait face à une grande entreprise, une entreprise titanesque. Et il a dû être un excellent administrateur, un grand chef d'État pour pouvoir accomplir ces tâches-là. Et finalement, on va parler seulement de ses 12 enfants. Et dans le verset 51, de 50 à 52, on va dire que Joseph, elle a eu 12 enfants. Et il les a eu pendant les 7 années d'abondance. Et est-ce qu'il y a quelque chose de très important? Il a nommé à un de ses enfants Manassé et à l'autre Éphraïm. Et Joseph a volontairement nommé ses 12 enfants avec des noms hébreux. Et ce nom hébreu avait la connotation de son histoire, de l'histoire de Joseph, son vécu, sa guérison spirituelle et ses remerciements au Seigneur. Manassé, selon la Bible, parce que j'ai fait la recherche du vocable hébreu, Manassé, peu importe, ça nous prendra une éternité à répondre, mais dans la Bible, ici, seulement, qu'est-ce que ça veut dire Manassé? Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. C'est ce que ça veut dire Manassé. Joseph, dans ce moment de sa vie, est dans un point de sa vie dont il ne se laisse pas que la racine d'amertume grandisse dans son cœur. Il est dans un moment de sa vie que rien ne va pouvoir lui déranger. Parce qu'il se laisse guider complètement par le Saint-Esprit. À ce moment de la vie, il a été déjà transformé. Comme la parole nous dit que nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Selon 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Et ici, l'enseignement, c'est que nous ne devons pas nous laisser gouverner par notre passé. Si vous pensez encore une fois à ce que ton frère, ta mère, ton cousin, ta cousine, ton ami, ton frère de l'église t'a fait au passé, ne te laisse pas gouverner pour cette chose. Tu dois être, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Vous voyez qu'est-ce que Joseph peut-être disait à ce moment-là, à cette époque de sa vie, Philippiens 3:13. Oubliant tout ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. C'est peut-être, je sais, disait ça, je vais oublier tout. Je vais oublier la chicane que j'ai eue avec mon frère. Je vais oublier comment mes parents m'ont traité quand j'étais. Je vais oublier mon pays qui m'a maltraité. Je vais tout oublier. Je vais courir vers le but, Christ. C'est ça que Joseph se disait. Et c'est ce que ça veut dire Pharaon. Il a oublié la maltraitance de ses frères. Il a oublié la citerne. Il a oublié la femme de Potiphar. Il a tout oublié. Maintenant, il est prêt à devenir un homme de Dieu. L'autre nom, rapidement, Éphraïm. Dieu m'a rendu fécond dans l'Égypte. C'est quoi l'Égypte? Vous savez c'est quoi l'Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire l'Égypte? Le monde. Égypte égale le monde. Alors, n'ayons pas peur de prospérer dans le monde. Nous sommes des chrétiens, mais n'ayons pas peur de prospérer dans le monde. Dans le monde, on peut donner témoignage. Et clairement, j'ai quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Joseph était en Égypte, mais l'Égypte n'était pas en Joseph. Et la même chose pour nous autres, ici aujourd'hui. Nous, les chrétiens, les croyants, nous autres, nous sommes dans le monde. Mais le monde n'est pas. Mais est-ce que le monde n'est pas en vous? Parce que vous devriez répondre, le monde n'est pas en nous. Mais malheureusement, on ne peut pas répondre ça. Mais le monde ne devrait pas être dans les chrétiens. Et dans le dernier verset de l'histoire, la famine s'installe. Dans les versets 53 à 57, et avec ça on finit. La famine s'installe. Et tout le monde, dit la parole, va vers Pharaon. Tout le monde, une année et demie après, va vers Pharaon. Pharaon, on a faim. Peux-tu nous donner quelque chose? Et qu'est-ce que Pharaon dit à ce moment-là? Allez voir Joseph et ce qu'il fait, c'est ce qu'il vous, il va vous dire. Et ça, c'est très important. Allez voir Joseph et c'est ce que Joseph va vous dire de faire. Je vais rêver peut-être en couleur. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est peut-être un rêve en couleur que j'ai. Imaginez-vous par un instant que Joseph, c'est l'Église. Suivez ma pensée. Imaginez-vous par un instant que Joseph, c'est l'Église. Et que le gouvernement, dans une très grande difficulté, instruit la population d'aller vers l'Église trouver une réponse à la problématique. Je rêve peut-être en couleur. N'est-ce pas? Ça serait bon, hein? Ça serait bon que nous soyons Joseph et que le gouvernement dit « Allez-y à Emmanuel, allez-y ici et là, trouver la réponse au grand problème de la vie. » C'est peut-être pas possible, mais l'Église est là. Sachez que l'Église est là pour venir à tous ceux qui cherchent Dieu. Nous devons ouvrir la porte pour tous ceux qui cherchent Dieu. Ça, c'est sans équivoque. Et pour finir, que notre vie et que nos dons soient pour bénédiction premièrement de notre maison. plus seulement pour la bénédiction de l'Église, de notre famille, de la ville dont on vit, Pierrefonds. Nous devons être une bénédiction pour Pierrefonds. Dit Pierrefonds, non? On est à Pierrefonds. Et qui sait pour la nation de Canada ou pour des autres nations? Mais peut-être vous allez me dire, oui, ok, ça c'est la théorie, mais c'est difficile. Pour moi, je ne suis pas là-dedans. Laisse-moi finir, je vais te lire seulement les psaumes 37, versets 3, 5 et 6. La parole dit, pour ceux qui ne croient pas que c'est possible, la parole nous dit aujourd'hui, confie-toi à l'Éternel et pratique les vies. Et les pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton corps désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Il fera apparaître ta justice comme la lumière de ton droit, comme le soleil à son midi. Que Dieu bénisse. La parole nous demande, comme Joseph, à être lumière là où nous sommes. Que Dieu bénisse.